un poème de Jacques Prévert.
Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies, doux petits musiciens. Soleils adolescents de la porte d'Italie, boumiants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polacs du marais du temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
Go, 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 go. On est où ici
À Saint-Gilles, pas loin, à Saint-Gilles.
Jonathan ?
Oui, c'est
Jules.
Jonathan, Jules, Christian.
Micro.
Quoi, comment ça s'appelle ?
C'est Jonathan Carrier.
Jonathan Carrier. Je veux dire Jonathan.
Jonathan.
Et c'est quoi ce Jules alors ?
C'est mon deuxième prénom, c'est ma marraine ou mon parrain et Christiane. Donc Jules, c'est mon parrain et Christiane, ma marraine. Je ne les ai jamais connus.
Mais qu'est-ce que Christiane, c'est Jules, Jonathan, Carrier ?
Donc c'est Jonathan, mon prénom, mon père m'a donné et ma mère. Jules, c'était mon parrain et Christiane était ma marraine. Et Guilin, c'est à l'époque où on donnait à la Saint... C'est la Saint-Guilin, je ne sais plus. C'est un truc qu'on mettait en plus pour les Wallons. C'était protecteur, soi-disant.
Ok. Bon, Jonathan. Jonathan.
On
ne
m'a jamais demandé tous mes prénoms.
Et quoi, ça te fait quoi ?
Ça
va, t'es perdu ?
Non, ça me fait bizarre, c'est tout.
T'en as plein en même temps, tu vois. C'est pas prénom, nom de famille, toi t'en as plein. On se dit, mais c'est quoi Jules, Jonathan, c'est quoi ?
1983, et encore à cette époque-là, on mettait les marraines et les parrains, peut-être encore maintenant, mais à l'époque, c'était pratiquement obligatoire. Et puis,
ouais.
La croyance catholique qui fait en sorte que tout dépend de quel endroit où tu es. Moi, c'est Guilin, d'autres personnes, ça pourrait être Thomas ou que sais-je, vous voyez. Je ne me suis jamais vraiment trop intéressé, mais je suis agréablement surprise qu'on parle de mes quatre prénoms.
Ah, bah, tout le monde n'en a pas quatre. Hein.
J'ai même un pseudo, Jodycar.
Jodycar.
J-O-D-Y-C-A-R, ça veut dire Jonathan Dylan Carrier, qui est mon fils Dylan. Et il fallait trouver un pseudo et j'ai cherché hein, pourtant, et puis celui-là, il est tombé comme une évidence.
Et tu peux, moi je ne connaissais pas du tout, toi tu es un gars du quartier, mais vraiment tu connais super bien. Et donc évidemment je me retrouve dans un endroit que je ne connais pas du tout. Quoi.
Et que tu risques d'avoir du mal à venir si tu ne viens pas avec moi ou les autres personnes qui travaillent ici, parce que c'est un jardin collectif qui est géré par une dizaine de personnes. Et avec le temps on devient des amis, les amis jardiniers et jardinières et... On plante nos légumes, nos fruits et on les récolte pour pouvoir manger et surtout faire des économies. Parce que quand vous regardez combien coûtent les légumes dans le magasin et combien ça nous coûte en sueur ici, je préfère la sueur que l'argent et de mettre ça dans les magasins.
Ouais, mais quand on dit le sueur, c'est tu mets ta graine et bon, en gros, ça pousse. Hein. Allez,
elle
honnêtement.
Elle est bonne, celle-là. Il faut quand même travailler toute la terre.
Arrête. Là, franchement, mais je comprends pas, moi, les gens qui disent ça.
Travailler la terre.
Mais normal, il faut un minimum faire quelque chose.
Facile, ça l'est. Physique, ça l'est aussi.
C'est ça.
Je t'invite à faire une heure de jardinage.
Attends, j'en fais moi-même. Je veux dire, c'est comme si t'allais faire... Ben oui, il faut un petit peu s'y mettre, quoi. Je veux dire, mais ça va, en gros.
Ici, on laisse un peu sauvage certains endroits pour y laisser les fleurs venir. Donc on laisse les orties, parce que les orties, ça peut être de l'engrais. On laisse de la mélisse un peu partout, parce que la mélisse, ça peut se consommer, et puis ça attire les insectes, tu vois. Donc on laisse un peu de sauvage.
Moi, je trouve ça incroyable, parce que tu mets ta graine, bon, après, en effet, il faut préparer la terre, mais ça va, c'est pas non plus la mort, quoi. Je veux dire, chaque année, en gros, tu dois pas refaire carrément un potager chaque année au départ de rien, tu vois, t'as la suite. T'as travaillé une fois, l'année prochaine, ce sera encore plus facile, etc., quoi.
C'est pas forcément vrai. Une terre, tu peux la rendre stérile si tu mets toujours les mêmes plantes à pousser au même endroit.
Mais oui, mais c'est pas ça que je dis.
Il y a des connaissances à avoir.
Ça, je n'ai pas dit. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que ta parcelle, t'arrives dans un espace sauvage, ok ? Ta parcelle, elle n'existe pas. Faut la faire. La première année, tu vas mettre ta bâche. Tu vois ce que je veux dire ? La deuxième année, tu n'auras plus besoin de mettre la bâche, ta passerelle sera déjà faite, elle sera déjà un petit peu travaillée. C'est ça que je veux dire, à la longue, c'est quand même incroyable, parce que tu mets ta graine et ça pousse, quoi. Moi, je trouve ça incroyable.
C'est incroyable, et puis c'est magnifique de voir que la nature, c'est de la patience et de l'amour aussi qu'il faut donner à ça. Moi, j'aime bien le jardinage. En plus, j'ai étudié là-dedans, en aménagement parc et jardin, horticulteur. Alors moi, j'étais plus dans le gros œuvre que dans le fignolage. Ici, les potagers, c'est beaucoup de fignolage, je trouve, beaucoup de chipotage. Parce que tu dis que c'est simple, mais la graine, si tu ne fais pas attention à la limace, elle va venir te la bouffer, tu n'as plus rien. J'ai eu le coup ici avec une de mes fèves, elle s'est fait complètement bouffer au collet et elle ne va plus repousser. Donc il y a parfois... Des tristesses, moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'une limace se nourrit sous mon dos. C'est pas gentil pour la limace.
Tu sais qu'il y avait des méthodes, hein. Il y a de la bière pour les attirer, elles se noient dedans, il y a plein de...
Je suis un peu contre ce genre de pratique, mais c'est vrai quoi? Que la limace, c'est cruel, c'est tout simplement.
Mais t'en sais rien, peut-être c'est byzance de mourir dans de la bière, hein, pour une limace. Ah, super, elle meurt dans la bière, c'est beau.
Je sais que la bière, ça fait du mal.
Attends, on n'a pas entendu au début.
Je suis alcoolique, donc forcément, je sais que la bière, ça fait du mal.
Elle, ça fait du bien aussi. Tu oublies de dire que ça fait du bien aussi, la base.
Ça fait du bien quand tu modères ta consommation. Quand tu plonges dedans, c'est fini. Ça fait plus du bien, au contraire, ça devient un besoin. Et là, c'est vicieux. Donc oui, ça fait du bien pour les gens qui savent consommer avec modération.
Oui, évidemment. Mais j'imagine que ça te fait encore... du bien tout en sachant que ça te fait du mal. Tu vois ce que je veux dire, c'est les deux à la fois, c'est pas...
Oui, ça me fait du bien, c'est sûr, sinon je ne le ferais pas. Mais on sait que c'est pas bien non plus de boire... Moi, je bois mes 4 à 5 bières par jour.
Tu vois? Et quel genre de bière?
C'est une bière polonaise à 7%.
Qui s'appelle comment?
Des Beauvais.
Des Beauvais.
En plus, je le dis, ça veut dire, je le dis à la polonaise. Si mes souvenirs sont bons, ça veut dire chêne.
Chêne?
Chêne. Voilà. Mais là, par contre, il faudra demander à un Polonais de vraiment rectifier le tir, parce que je ne suis pas certain de mon truc.
Allez, Jonathan, on démarre, parce que voilà, c'est comme ça qu'on démarre. On va se dire pourquoi on se rencontre.
C'est moi qui t'ai contacté suite à un post Facebook qui m'avait fait réagir. Je ne sais plus exactement lequel, parce que je réagis beaucoup. Je suis quelqu'un très émotionnel, donc je peux partir dans tous les sens. Mais je t'ai demandé de venir m'interviewer pour te présenter mes livres, première part, mais surtout mon témoignage, une personne qui a vécu la rue pendant 12 ans. Et aujourd'hui, grâce aux éditions Malmström, je peux témoigner via une poésie très engagée, très militante et émotionnelle. Et ma poésie parle essentiellement du monde de la rue.
Oui, tu as réagi à un post micro ouvert sur justement la gare du Midi. Une photo peut-être ou la lecture du texte.
Je te l'ai encore dit tantôt, moi je trouve scandaleux que ça fait des années qu'on les laisse dormir là. Or, on connaît combien de bâtiments qui sont abandonnés. Ils auront toujours des excuses pour ne pas les ouvrir. Mais d'un autre côté, ça me rassure de savoir qu'au moins, ils peuvent dormir sous le pont en question, toi. Mais voilà, moi quand je les vois, j'ai mal au cœur, c'est tout. Je ne supporte pas de voir une personne dormir dehors, un sans chez soi. Et surtout des sans chez soi qui sont aussi loin dans la précarité et dans la problématique mentale. Donc tout ce qui est
mental,
oui, et psychique, hein, la toxicomanie. Je connais beaucoup de gens qui sont tombés dans la rue qui n'étaient pas toxicomanes. Le problème, c'est que le système est tellement difficile pour se sortir de la rue qu'il y en a beaucoup qui malheureusement se retrouvent sur la route de la toxicomanie, parce que la toxicomanie, ça va sembler fou à certaines personnes de l'entendre. Mais moi, j'avoue que sans mon alcoolisme et ma toxicomanie, peut-être que je me serais suicidé depuis très longtemps. Donc moi, l'alcool et la toxicomanie me permettaient de vivre dans un autre monde, parce que ça, c'est sûr, mais aussi d'en avoir rien à foutre des gens autour de moi, parce que les gens n'avaient rien à foutre de moi. Donc c'est, ça va dans les deux sens. Hein. Je sais très bien qu'en tant que toxicomane, on a un comportement qui déplaît. Bon, voilà, je l'ai choisi, je l'ai vécu.
Tu l'as choisi à moitié.
Alors, c'est toujours difficile de tomber dedans, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu veux arrêter la toxicomanie, tu dois accepter que c'est toi qui tombes dedans. C'est toi qui choisis de rester dedans et de consommer. C'est pas toi qui t'as poussé dedans, dans le sens où voilà, tu peux tomber sur des personnes très manipulatrices qui vont te dire « ouais, mais ça va te faire du bien ». Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu as une conscience. Si tu as une conscience, tu sais que c'est de ta faute. Moi, je sais que c'est de ma faute.
Ah ouais ? Tu le traduis comme ça ?
En tout cas, moi, je suis dans le cliché, vraiment, du fait que j'étais un clochard alcoolique et toxicomane. Et c'est surtout ça qui m'a plongé dans la rue. Que d'autres personnes, c'est vraiment une perte d'emploi, une perte de société.
Qu'est-ce qui t'a poussé ? On ne comprend pas, là. Qu'est-ce qui t'a poussé dans la rue ?
Le fait que je suis quelqu'un de très dépressif et j'ai eu une enfance très difficile.
Ah ouais, mais là, on dit pas que c'est attends, on dit pas que c'est la bière ni la drogue, tu vois.
Tout ça a fait en sorte que je suis tombé dans la toxicomanie parce que ça m'aidait à supporter la douleur psychologique. Et c'est ça qui m'a enfoncé dans la drogue. Tu sais que moi, j'étais très loin dans la drogue. Hein. Je me suis retrouvé à un point où je rampais par terre. Hein. Et quand je parle de drogue, c'est héroïne et l'alcool, mélangé deux. Donc j'ai vraiment été très, très, très loin. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que si les gens qui s'en sortent le mieux, ce sont les gens qui ont le plus de soutien. À commencer par la famille ou des amis, vraiment des amis. Que moi, malheureusement, avec tous mes crises et délires de la toxicomanie, ben, tout le monde s'éloignait de moi. Moi, j'ai vraiment dû arrêter tout ça dans la rue. J'ai dû me mettre sous ma chic. J'ai dû attendre pendant plus de 7 ans avant d'avoir des vrais amis. Maintenant, j'ai vraiment des vrais amis. Et j'avoue que je fais très attention maintenant. Vraiment très attention. À ce que je dis, à comment j'amène les choses, à qui j'amène avec moi.
À qui tu amènes avec toi ?
Oui, on ne sait pas. Ça peut être une personne qui est venue 3 jours plus tôt, foutre le bordel au chien andalou pour prendre cet exemple. Moi, je ne le sais pas, mais le chien andalou, c'est que c'est un ami.
Chien andalou, c'est un café hein, pour les gens qui écoutent. C'est quoi ça, le chien andalou ?
À l'avenue Jean Volders, numéro 25, à Saint-Gilles. Très bel endroit. Et voilà, et ça peut me retomber dessus, tu vois. Donc, il faut faire attention avec qui tu traînes, à qui tu amènes aux endroits, avec tes amis qui t'entourent, toi. Si tu amènes forcément une personne toxique, ça va te retomber dessus. Et moi, je ne veux plus de ça. J'en peux plus. En plus, j'aime bien assumer mes conneries tout seul.
Ouais, l'idée, alors, c'était un petit peu de parler... parce que ça, moi, ça, c'est ce passage qui m'intéresse souvent. On dit, oui, mais si tu tombes dans la drogue... C'est vraiment, on dit tu tombes dans la drogue. Donc, tu tombes, tu te casses la gueule, quoi. C'est pas un truc que tu choisis de te casser... On dit pas tu choisis de te casser la gueule. Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui,
attends. Et c'est un point important parce que souvent on dit oui, mais attends, c'est un choix. Non, il faut quand même mettre de la subtilité là-dedans. Je veux dire, tu choisis pas complètement de tomber dans la rue et les drogues qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire ?
Concrètement, non, mais t'es
toi qui as l'expérience.
Moi, je vais parler de mon expérience surtout. Concrètement, non, j'ai pas choisi de tomber dans la drogue ni dans la rue. Mais les choix que j'ai pris dans ma vie m'ont conduit sur ce chemin où c'était inévitable de glisser. C'était inévitable. Donc, au début, on a toujours un choix de chemin. Et ensuite, sur ce chemin-là, tu as quand même un autre choix. C'est de continuer sur ce chemin ou de te dire, c'est bon, je vais prendre un autre tournant et essayer de reprendre une autre vie. Si je n'aurais pas pris ce tournant-là, je n'en serais pas avec mes livres.
Oui, mais il faut avoir de la volonté, de la force, de la chance, peut-être. Tu vois, on n'est pas tous... Parce que alors, ça voudrait dire... Oh, toi qui es dans la rue, là, prendre tes produits, allez, bouge-toi les fesses et sors de là, tu vois. C'est une question de volonté. C'est très méritocratique. Et très libéral aussi, hein. Genre, allez, c'est très...
C'est là où je te dis que je n'ai pas que des idées de gauche.
Ouais, mais ça, je l'entends.
Donc, mais c'est surtout une chose. Si tu veux aider les gens, il ne faut pas les victimiser plus qu'ils le font eux-mêmes. Voilà. Moi, je me suis tellement victimisé que je me suis retrouvé au fond du trou où la seule chose qui me restait à faire, c'est de secouer la tête et de te dire « John, soit tu restes dans ce trou, mais t'arrêtes de te plaindre, ou tu te bouges le cul. » Et c'est comme ça que j'ai réussi. C'est l'ASBL Diogène, un des travailleurs, je vais citer juste le prénom qui est Berthe, il a mis des années à me mettre dans la tête que c'était pas normal de vivre dehors. Parce qu'il y a un moment, j'avais tellement l'habitude de vivre dehors que vivre en logement, c'était plus dans ma tête. C'était beaucoup plus normal de vivre dehors à ma façon, sans revenus et aéré, que de me retrouver de nouveau dans un appartement, parce que moi, je vois une autre chose là-dedans. C'est les cases, mettre au boulot dodo, rentrer dans la case, rentrer dans le rang. C'est bien un truc que j'ai jamais aimé, c'est de rentrer dans un rang. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai choisi d'avoir cette mentalité.
Tu as quoi ?
J'ai choisi d'avoir cette mentalité.
Depuis... Je ne comprends pas. J'ai choisi quoi ?
D'avoir cette mentalité.
D'avoir cette mentalité. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les cases, mais... Enfin, tu vois,
c'est sûr. Mais à chacun a sa manière de vouloir sortir du rang ou de sortir de la case. Moi, ma manière a été très rude. J'ai fait mon expérience. Et aujourd'hui, de mon expérience, j'en tire le fruit comme ma poésie. Tu vois. Donc, tu vois, le premier de mon livre est très brut.
Mais comment c'est... Excuse-moi. Comment c'est venu la poésie petit à petit? Donc, quoi, tu sors petit à petit de la rue ou bien t'es toujours un peu dedans? Comment ça se passe, quoi?
C'est surtout la colère d'abord. Vraiment cette colère, j'ai toujours eu une colère immense en moi. Et j'aime bien dire cette phrase-là. Avant, je criais les vers que je buvais dans la rue. Aujourd'hui, je crie en vers les vers que je buvais. Voilà, tu vois. Donc, j'ai toujours eu cette immense colère contre le système, contre une société. Élitisme, méritocratique, comme tu l'as dit tantôt.
Difficile à dire. Hein.
Oui.
Méritocratique.
C'est un mot que j'aimerais tellement qu'on oublie. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous égaux, mais je sais que c'est utopique. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que la méritocratie, ben, ça écrase les uns et ça élève des personnes qui, peut-être, ne devraient pas être si hauts.
Ouais, enfin les personnes peut-être qui sont si hauts, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, c'est des rapports de force, c'est des luttes de pouvoir, c'est du vol. C'est compliqué de parler comme ça d'un. Mais parlons un peu de comment t'es arrivé. Du coup, tu disais que c'était la colère. Comment t'es arrivé à te dire, bah tiens, moi en fait, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu t'en souviens.
Ça a commencé au syndicat des immenses il y a plus ou moins 6 ans.
T'as atterri là?
J'ai atterri au syndicat.
En tant que SDF?
Non, j'étais plus SDF déjà à ce moment-là. Donc ça fait 8 ans et demi que je me suis sorti de la rue. Syndicat des immenses, je les ai découverts il y a plus ou moins 6 ans. À l'époque, je travaillais chez Brico. Donc, j'avais beaucoup de mal de participer aux réunions, de faire les manifestations avec eux. Puis j'ai eu un problème au cervical. Donc j'ai eu un tassement dans les cervicales où ça touchait la moelle épinière et on a dû retirer un disque pour mettre une cage. Et suite à cette opération, je ne peux plus porter de charges lourdes, je ne peux plus faire de sport de contact. Je dois faire très attention à tout ce qui est contact et tout ce qui est physique. Et cette colère m'a vraiment emporté. Je me suis dit, mais allez, quoi, le bout du tunnel, je le voyais, j'étais à 2 doigts de payer toutes mes dettes en quelques années grâce au travail et j'allais pouvoir encore allonger 1 an ou 2. Mais je savais au fond de moi que j'allais pas rester chez Brico des années et des années, à cause déjà rien que mon caractère. J'ai un caractère épouvantable. Je me laisse pas faire et je meurs très vite. Mais oui, je meurs très vite. Aziz du Brico...
S'en souvient.
S'en souvient. Il y a aussi Alexis qui est devenu le patron du Brico qui s'en souvient. Et voilà, big up à eux parce qu'ils m'ont énormément aidé, ils m'ont beaucoup soutenu. Même si aujourd'hui, certains pensent encore que j'ai fait exprès d'être à la mutuelle. Non, je vous assure que non. J'aurais préféré me faire virer sous faute grave et devoir ramer de nouveau que de me mettre ces gens-là à dos et avec des gens qui croient que j'ai fait exprès. Donc ça me blesse un peu, ça, j'avoue. Parce que j'ai beaucoup de respect pour l'équipe en complet qui m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli dans une situation pas très facile parce que les 6 mois que j'ai travaillé, les premiers 6 mois, j'étais en tente. Donc je dormais dehors. Donc je sentais pas toujours la rose. Hein, on venait près de moi et me dit John, ouais, mais elle est où la douche? Ouais, mais John, ouais. Voilà, donc j'ai dû me débrouiller encore plus loin. Donc voilà, et puis j'ai eu une sciatique, j'ai eu un premier abandon d'emploi. Je le dis bien, abandon d'emploi. Je suis retrouvé au CPS. Puis ils m'ont réengagé une deuxième fois.
Ah ouais.
Ouais. Je vais même te dire que c'est le père Berthemès, Michel, qui est venu me chercher dans la rue, me proposer de l'emploi.
Ah ouais.
Trouve quelqu'un qui te dit ça, c'est rare. Je dis pas que c'est impossible vu qu'il l'a fait avec moi, mais c'est rare. Donc, imagine, le mec, il a cherché pendant 3 semaines dans le quartier pour me retrouver avec une bière et un joint en main et il a pas vu ça. Lui, il a vu quelqu'un qui voulait aider. Et il l'a fait, il m'a réengagé une deuxième fois. J'ai de nouveau mon caractère de cochon, l'a emporté, donc j'ai de nouveau abandonné mon emploi. Mais là, j'ai réalisé que le CPS, il voulait plus de moi non plus.
Pourquoi là?
Parce que deux fois tu abandonnes ton emploi, il y a un moment où il faut quand même assumer ses responsabilités. Il y a un moment où il y a une sanction qui doit tomber, tu vois. C'est comme ça le système, la méritocratie, comme tu dis.
Oui, c'est ça, t'es bien. Tu la comprends très bien. T'es d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça?
Je l'ai vécu, je l'ai subi. Et je suis d'accord en soi. Parce que moi, on m'a donné la chance et j'ai craché un peu sur cette chance quand même. Faut pas déconner non plus. Restons honnêtes.
Mais non, faut pas le voir comme ça. C'est qu'à ce moment-là, peut-être, il y a quelque chose en toi qui faisait que tu pouvais pas attraper cette chance, quoi. Enfin, tu vois, c'est là que je dis c'est pas si simple que ça, quoi. On a des douleurs à l'intérieur de soi, on a de la folie, on répète des fois les choses en boucle et puis un jour, on arrête. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? On est plus mystérieux que ça.
Oui, on est plus mystérieux que ça, c'est sûr. Mais pour terminer avec le bricole, je suis revenu un mois après en réalisant que... Et je devais signer un contrat d'un an, durée déterminée, pour avoir droit au chômage. Et après, c'était fini, ils me remerciaient. Malheureusement, c'est là où j'ai eu des problèmes, où j'ai eu des endormissements dans mes membres inférieurs et supérieurs. Et j'ai été voir, et là, il y a eu l'opération et tout, puis l'accusation du fait que j'ai fait exprès. Et c'est pour ça que je suis content un petit peu d'en parler d'eux, parce que je parle pas souvent d'eux, c'est vrai. Mais je n'oublie pas le geste qu'ils ont fait envers moi, les gestes qu'ils ont fait avec moi, et l'air de rien, ça m'a sorti de la rue. Ouais, ça m'a sorti de la rue, donc c'est le travail quand même qui m'a sorti de la rue, parce que sans travail, t'as pas de logement, il n'y a pas de propriétaires qui veulent de toi. Et c'est une autre réalité, ça.
Oui, c'est sûr, mais à la place du travail, il y a aussi des endroits, heureusement, où tu peux un peu te mettre en stand-by, on peut un peu s'occuper de toi, tu peux un peu... Oui, ou alors je pense à des assos comme ça, enfin tu vois, heureusement quoi.
J'ai eu le syndicat des immenses pendant un moment, et puis voilà, moi j'ai passé un stade où, voilà, il faut que je dise la vérité, je ne les supporte plus. Je supporte leur travail, mais je ne les supporte plus eux. Et c'est pas contre eux. Ces gens sont encore dans la rue pour la plupart. Ils sont très fatigués. Il y a beaucoup de colère encore en eux et tout. Moi, cette colère, elle a réussi quand même à baisser, tu vois. Et j'ai du mal à encaisser. Je suis très émotionnel, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal à encaisser. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions aussi. Donc, je me suis éloigné, mais je suis beaucoup à court avec Lilo. Je vais bientôt animer des ateliers d'écriture à la maison Poème de Saint-Gilles en collaboration avec Lilo et Malmström. Et aujourd'hui, en fait, vu que j'ai mon troisième livre qui va bien sortir, mes prochaines idées, c'est de faire parler la rue, faire parler les gens qui vivent dans la rue. C'est pas facile de les faire parler, ces gens-là, parce que d'abord, ils ont peur. Ensuite, il y a toujours la famille, pour beaucoup. Ah, mais j'ai pas envie que la famille sache, ou j'ai pas envie que... Vous voyez? Donc, quelqu'un comme moi qui parle du monde de la rue, de ce qu'il a vécu avec autant de légèreté, entre guillemets, je dis bien légèreté, parce que les émotions, c'est très difficile. Et j'en ai encore parlé avec un ami où il m'a dit, est-ce que tu vas écrire un roman? Je lui ai dit, écoute, rien que d'écrire un petit comme ça, c'est tellement d'émotions en peu de poèmes que moi, je dois avoir des 3 à 6 mois de pause après quand il y a un livre qui est sorti, parce que je mets toutes mes tripes dans ma poésie et ça se ressent. Vraiment, ça se ressent. Et dans le troisième, il y a toujours cette émotion et tout, mais c'est beaucoup plus d'espoir et beaucoup plus d'amour, même s'il y a encore des textes qui sont assez rudes.
Mais quoi, ils sont ici, ces 3 petits livrets?
Alors il y en a 2, parce que le troisième n'est pas encore sorti, il sort dans les alentours du 14 mai. Mais le premier, c'est l'immense jeu.
L'immense jeu.
Alors l'immense, c'est un acronyme de individu dans une merde matérielle énorme et non sans exigence.
Oula, c'est très recherché, hein.
Hein? Syndicat des immenses, ils travaillent. Hein. Ils ont créé un thésaurus avec 200 mots pour mieux nommer les gens et les situations dans la rue. Donc Albert Camus disait de mal nommer les choses, c'est d'ajouter du malheur au monde. Au syndicat des immenses, on dit que mal nommer les gens, c'est de leur ajouter du malheur à leur vie sur Terre. Et on a créé 200 mots. C'est dommage, je n'ai pas pris le thésaurus, j'aurais dû te le présenter.
Et présenter quoi?
Le thésaurus de l'immensité, qui est un ouvrage auquel j'ai participé à sa construction, à son élaboration. On a été plus ou moins peut-être 150, 200 personnes autour de ce livre. Hein. C'est un travail quand même de 2 ans minimum, sans oublier qu'il y a encore le travail continu après la sortie du livre. Hein. Mais dans ce livre, il y a « manger aux 4 vents », qui est une expression que j'aime beaucoup, qui veut tout dire pour moi. « Manger aux 4 vents », qu'est-ce que tu entends dans « manger aux 4 vents » ?
C'est beau, je trouve qu'il y a une ouverture, « manger aux 4 vents », mais ça peut aussi faire penser à... comment tu sais, quelqu'un qui est opportuniste, qui mange à tous les râteliers, là, tu vois?
Peut-être. C'est pas mal, j'aime bien la parabole. Mais c'est surtout le fait qu'un sans-abri, qui n'a pas d'abri, ben, forcément, il est obligé de manger dehors et de par les 4 saisons. Il choisit pas. Moi, j'ai été pendant 7 ans d'affilée dehors et 5 ans. Et voilà, il y a des moments où tu manges dehors, même si c'est dans une tente, t'es dehors. Et tu es aux quatre vents, ça veut dire aux quatre saisons.
Donc, on... Oui, mais ça a quelque chose de beau pour moi, non beau, toi, non, c'est pas...
Si, j'aime beaucoup. Si, c'est très poétique. J'aime beaucoup, c'est un de mes mots préférés. Et il y en a un autre qui est préféré, c'est Fatalash. Fatalash, c'est des gens qui sont persuadés que le sans-séchoirie, ça a toujours existé. Ça existe encore et ça existera toujours. Ils ne se remettront jamais en question. Eh bien, moi, je suis un peu Fatalash. Parce que même si mon combat... c'est d'espérer et de témoigner d'abord pour le monde de la rue et d'espérer qu'il n'y ait plus personne qui dorme dehors. Au fond de moi, je sais très bien que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Donc, je suis un fatalache. C'est dingue, hein, quand même. Hein.
Mais non, c'est pas dingue. Je trouve ça très...
Tu dis ? Réfléchi.
Réfléchi, je ne sais pas, mais j'aime bien. C'est, j'aime bien. Fatalache. Et puis, je suis d'accord avec cette idée-là. De toute façon... Il y a les gens, après c'est compliqué parce que c'est encore un sujet bien complexe, quoi. Dormir dehors, bon, à cette saison, c'est déjà un peu plus...
C'est quand même plus facile, oui, effectivement.
Tu sens l'odeur du compost, là ?
Oui,
t'inquiète pas, c'est frais.
Ça fait 3 ans que j'y travaille. Ça fait du bien, c'est bon pour, c'est bon pour l'esprit.
Et ah oui, c'est bon pour l'esprit ?
Se dire que...
Ça nous enivre un peu, là.
D'une part, et d'autre part, se dire que c'est pas parce que ça pue la mer que c'est forcément mauvais.
Moi ? Non, mais il faut un peu s'habituer quand même, hein, parce qu'on n'est pas près des odeurs de caca et pipi.
Hein. C'est pas comme si on était à côté d'une ferme qui avait 10 vaches. Donc, bon, ça va. Moi, je suis content ici. Je le sens légèrement, le compost, mais voilà, on est dans un jardin et je trouve ça normal et un peu logique. Maintenant, on va mettre des pétales de rose dedans, peut-être. Hein, ça sentira
bon. Bah, moi, ça me plairait bien, là. Mais non, là, je sais que je vais rester.
Bien.
Tu dis ?
Pendant quelques jours, ça risque de sentir bon, mais après, c'est fini, ça va être la même hauteur. Hein.
On continue alors l'immense jeu.
Ouais. Au début, c'était l'immense jeu.
Mais
j'ai trouvé ça vraiment trop, trop prétentieux. Alors, j'ai de la prétention, hein, faut pas croire, j'ai de la fierté, je suis un humain comme tout le monde. Mais j'en ai pas là, mon éditeur, je fais, j'ai des défauts et tout, mais voilà, le vendre en tant que jeu, ça me plaît pas. Et elle me dit, pourquoi pas jeu ? Et puis bon, j'ai dit, ouais, il mange jeu. Ouais, parce qu'il y a tellement de gens qui croient qu'on joue dans la rue, que c'est un jeu, qu'on choisit. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on a choisi de vivre dehors, hein. Que c'est un jeu, que voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'ironie de la chose. Voilà, je suis quelqu'un de très ironique, de très dans le sarcasme. Tu vas voir dans ma poésie, si tu as cette chance-là. Il y a quand même beaucoup de sarcasme. Et j'aime bien le sarcasme parce que l'air de rien, c'est ce qu'on vit le plus souvent dans la rue.
Ouais, il n'y a pas des gens sympas quand même.
Encore heureux, sinon je ne serais pas sorti de la rue. Hein.
Il faut dire les deux, alors il y a des gens sarcastiques, mais aussi des gens solidaires.
C'est que tu es là pour poser les questions.
Oui, mais bon, moi j'aime bien ne pas. En fait, je vais te dire, moi, au moins je pose des questions, au mieux c'est. Tu vois, je me laisse emballer par. Mais des fois, j'ai envie de tiquer parce que ça.
T'as raison de tiquer parce que l'être humain que je rencontre dans la rue et quelqu'un. J'en rencontre beaucoup de très bons. Par contre, dans l'administration, dans les communes, dans ces endroits-là, je suis désolé. Je sais que vous suivez un règlement et. Un règlement d'ordre intérieur ou des choses comme ça. Je me doute bien, mais il y a un moment, c'est revenez humain, quoi. Il y a un moment où il faut se couler la tête et de se dire, voilà, je viens de mettre une mère et ses 3 enfants dehors parce qu'elle n'a plus de revenus et que je ne peux pas lui donner. Et ça arrive encore trop souvent. Tu vois? Et je prends l'exemple de la mère et ses 3 enfants. Je pourrais dire aussi un père et son fils. Donc, voilà. Donc moi, j'ai volé dans la rue et ils ont tout fait au lieu de m'aider, de faire en sorte que mon fils et moi, on n'ait plus de contact du tout. Donc c'est très compliqué, vous voyez.
Ça ne m'étonne pas ce que tu dis là, tu vois, mais c'est ça. Mais...
La jalousie, le narcissisme, le fait qu'on se croit toujours supérieur aux autres, ne pas vouloir laisser parler les gens, ou de voir... Moi, j'ai une mentalité très spéciale, c'est que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le dialogue, mais je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Je ne vais pas me laisser manipuler. Moi, tu ne me manipules pas, c'est tout. Soit on est sur la même pied d'égalité, on peut se disputer et revenir 3 jours plus tard et rediscuter. Mais si tu ne sais pas revenir discuter parce que tu es trop fier, ben tu peux rester là où tu es, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et c'est ce qui se passe avec la plupart de ma famille et la famille de mon fils.
Fâché alors ? Vous êtes fâché ?
J'étais fâché. Là, maintenant que j'en parle, c'est clair que ça réveille des émotions. Maintenant, je travaille à devenir complètement indifférent parce que je sais que mon fils va revenir vers moi.
Il a quel âge ton fils ?
Il a eu 16 ans le 4 avril.
Et il s'appelle comment ?
Dylan.
Dylan, ben salut Dylan, hein, on remet à moi. On fait une dédicace ?
Une petite dédicace à mon petit loup, que je lui souhaite beaucoup de courage dans son combat en ce moment parce qu'il est très difficile. Il est en train d'essayer de chercher un logement à long terme pour personnes mineures d'âge, malheureusement. Il a tellement déconné, tellement fugué que les centres ne veulent plus de lui. La juge a décidé de ne plus prendre de décision pour lui. Même son avocate l'a laissé tomber. Donc il se retrouve réellement seul. Maintenant, je suis là. Alors, je sais que ça va passer à la radio et ça risque de me faire des ennuis. Parce qu'à la base, je ne peux pas avoir de contact avec lui. Mais je suis le dernier. Tout le monde l'a laissé tomber. Ils ont tous les raisons qu'ils veulent. Hein. Mais moi, j'essaie de le récupérer. J'essaie de faire une non-assistance en personne en danger, même si c'est...
Quoi, tu dis ?
Non-assistance en personne en danger. Donc c'est un mineur d'âge qui risque de dormir dehors et voilà, je l'oriente vers SOS Jeunes, Abaca, Point Jaune. Pour le moment, ça fonctionne, c'est des nuits d'urgence, mais ça m'agace, ça m'énerve parce que c'est que des trois nuits par-ci, des trois nuits par-là et on n'arrive pas à lui trouver un endroit vraiment stable. Et maintenant qu'il a vraiment envie de cette stabilité, qu'il a enfin compris qu'il a fait une erreur en partant là où il est parti... Et il s'est rendu compte que c'était un environnement tellement toxique qu'il a dû fuir. Or, il s'est battu comme un fou furieux pour aller là-bas.
C'est où ? Tu n'es pas obligé de le dire, hein, là.
Mais... Je vais, pour respecter la personne, ne pas dire de nom ni de statut.
Oui, mais qu'on comprenne un peu quoi, il quittait...
C'est une personne très proche de Dylan.
Ok, son amoureuse ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, quoi. Ok, qu'on comprenne un peu.
Non, ce n'est pas vraiment, sinon ce serait le concept de Deep. Là, maintenant, je crois que vous avez compris. Ce n'est pas un truc de Deep, là. Donc, c'est sa mère. Voilà, mais j'ai pas envie de te reparler de mal d'elle parce que ça se fait pas. Je le demande à Dylan de pas raconter de mal d'elle parce que c'est rentré dans la colère et tout. C'est pas bon parce que c'est son cœur qui détruit, c'est tout. Donc je ne veux pas parler de mal d'elle, mais il a fait une erreur d'aller là-bas parce que Dylan a son caractère, sa maman a son caractère et ça a explosé au fait.
Oui, mais ça arrive aussi en même temps, non ?
Oui, ça arrive, c'est sûr.
Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Hein.
La difficulté de Dylan, c'est de. Avec tous ces agissements qu'il a eus.
Ben, elle le rejette alors ?
Ben, elle l'a rejeté, maintenant elle est un peu spéciale. Hein.
Toi, tu l'accueilles pas ?
Je ne peux pas, moi.
Pourquoi ?
Parce que je ne suis interdit de contact avec mon fils par la justice.
Oui, mais bon, ok.
Oui, mais bon. Comme vous dites, mais tant que la justice, on ne va pas l'asticoter. Elle fera rien. Mais je connais la marraine, je connais la mère, la grand-mère, mon père, je connais ma sœur. Ce sont des gens qui, s'ils vont apprendre que Dylan est chez moi, ils vont tout faire pour me mettre dedans. Ils vont tout faire. Ces gens-là sont des pervers. Sincèrement, des pervers narcissiques.
Encore le monde est rempli de pervers narcissiques.
Il y en a beaucoup, mais le monde n'est pas rempli d'eux.
Non, mais parce qu'on voit tout le temps ce terme.
Mais c'est vrai pour eux. Pourquoi ? Parce que... Ils ne vivent que pour eux, pour leurs propres émotions, pour leurs propres plaisirs. Au fait, ils n'ont jamais pris Dylan pour prendre Dylan et d'aider Dylan.
Ne rentrons pas là-dedans,
oui,
d'accord ? C'est trop complexe et puis c'est chouette. Si jamais il y avait les gens qui étaient là, alors on pourrait avoir une vraie discussion. Mais là, c'est inintéressant. Tu comprends ?
Oui.
Pas que ton... Tu comprends, hein ?
Oui, je comprends.
Bon, on reprend sur l'immense jeu.
Deux.
Jeu.
L'immense jeu 2.
Oui, mais ça, c'est le premier livre, c'était l'immense jeu. Et quoi, ça raconte quoi ? C'est quoi ce petit livret ? Il y a combien de pages, là ?
Je crois, 46 pages. C'est une poésie engagée, militante et émotionnelle. Je parle beaucoup de...
Waouh, c'est écrit en tout petit.
Je parle beaucoup de mes émotions là-dedans. Donc ici, où est ma maison ?
Tu veux en lire un de ton... Non, t'as pas pensé à ça, je t'avais dit, si jamais t'avais envie d'en lire...
J'y ai pensé, mais j'ai toujours du mal à...
Mais t'as oublié, j'y pense et puis j'oublie.
C'est pas la raison, c'est que je suis quelqu'un de spontané, que j'aime bien me faire inspirer par la discussion que nous avons. Donc, en fait, le premier, c'est... Ouf, tu vois, c'est un texte où je parle de ma séparation avec mon ex, où je me flagelle assez. Donc... Beaucoup de gens vont toujours voir le défaut dans leur couple chez l'autre personne. Ben moi, j'ai travaillé à voir les défauts uniquement chez moi. Bien entendu, je suis comme tout le monde, hein, je lui ai aussi trouvé des défauts. Hein. Mais dans ce texte, dans ce poème, c'est une autoflagellation, on va dire. Voilà, ici, j'ai un autre texte qui s'appelle Bethléem. C'est ici, sur la place Bethléem. C'est une place qui est fort décriée à cause des activités illégales qui s'y passent. Moi, j'ai voulu embellir la place BTM par un poème où je parle des arbres, des pigeons, des gens qui y passent, des restaurants, des enfants, des activités pour les enfants aussi, des différentes icebergs qui s'y passent.
T'as pas envie de nous lire un,
hein ? Oui, ils sont longs, hein ? Ils sont longs.
Alors, on a le temps, il y a 33 minutes, et comme ça, on rentre vraiment dans ton écriture, ou bien tu préfères, tu veux que je lise moi ?
Alors, je vais vous présenter « Libre comme l'oiseau » de l'immense jeu 1, le premier. C'est le texte le plus doux de ce recueil. Dans ma tente, je vois le jour se lever. Je regarde le temps, le soleil brille, il fait beau, le vent est léger. Les oiseaux chantent, d'arbre en arbre on dirait qu'ils dansent. Patiemment, j'aime les voir manger, chanter, danser, s'approcher, s'éloigner. Dans mon bois, absorbant mon café, j'ai de la joie à regarder passer les maisons jupées. Au loin, quelques ramiers qui n'osent s'approcher. J'entends le cognement du pic vert, de ses coups de bec, espère trouver à manger. J'apprécie voir le moineau s'approcher. À côté de moi, le voir chuchoter me console. D'heure en heure, je suis comblé par tant de bonheur. De la mésange boréale au chardonneret élégant, la pie bavardant avec un mignon troglodyte, le suzerain qui se croyait en cabaret, la perruche qui met son plus beau collier, le pic qui pêche quand le martin se dépêche, la citelle qui tourne autour du pot et le pinson qui perd le nord. Le spectacle me fait perdre la notion du temps sans faire d'effort. Toutes ces agitations égayent ma matinée. Malgré mon non-logement, j'ai réussi à créer ma télé. Dans mon bois, certes, je n'ai pas de planche, mais le balai est magnifique à admirer. C'est un texte que j'ai écrit parce que quand j'étais dans la rue, à certains endroits, je mettais de la nourriture pour les oiseaux et dans l'espoir de pouvoir les regarder, les voir. Et au début, je croyais qu'ils allaient manger tôt le matin, vers les 5, 6, 7 heures. Ils venaient jamais avant 10h30, 11h minimum, ouais. Peut-être parce qu'ils mangent ailleurs, peut-être parce que voilà, ils font d'autres choses ailleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas un oiseau.
Il faudrait les suivre.
Mais je les ai traités tout longtemps de fainéants, en tout cas.
Non, ils commencent plus tard, quoi. On croit qu'ils se lèvent à l'aube, mais pas du tout.
Ah, ils se lèvent à l'aube, parce qu'en plein été, déjà vers 3h30, 4h du matin, tu entends déjà les chants des oiseaux. En hiver, c'est vers 5, 6 heures. Mais pour manger, à mon avis, ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas un oiseau. Mais je sais que pour moi, dans mon environnement, il venait vers 10h30, 11h.
Intéressant. Après, il faut échanger avec d'autres gens qui peut-être font les... tu vois, qui ont aussi un œil sur les oiseaux à un autre endroit, qui te diraient, ah ben non, moi, ils arrivent toujours vers 8h du matin. Tu vois. Voilà. Mais du coup, donc ça, c'est le tome 1, on va dire.
Oui, tout ça.
Et alors, le tome 2.
C'est une continuité où les textes sont quand même un peu moins bruts. Ça reste toujours rude, ça reste toujours la rue, mais c'est un peu moins brut. Le tome 2, c'est... Au début, je me suis
c'est
dit...
C'est toi, ça ?
Oui, c'est moi. De toute façon, les deux photos. Au début, pour le premier, je me suis dit, ce sera un, et puis bon, voilà, je ne vais pas trop m'enflammer. J'ai continué à m'enflammer, j'ai continué à écrire, j'ai continué à respirer. J'ai un très bon contact avec mon éditeur. Donc, quand je dis un très bon contact... Ça pourrait être presque mon papa, de comment il fait les choses avec moi. Ça ne l'est pas, ça ne le sera jamais, mais c'est quelqu'un qui est très bienveillant avec moi, très patient, très à l'écoute. Dès que je peux, dès qu'il peut, il est très à l'écoute. C'est quelqu'un qui travaillait à Pierre d'Angle avant d'être éditeur. Pierre d'Angle, c'est un endroit ici à Bruxelles qui accueille les personnes de la rue pour la nuit. Et en journée, s'ils passent par des ASBL, il y a un système de sieste qui se crée là-bas. Si tu n'as pas réussi à dormir la nuit à Pierre d'Angle au SAMU social, tu peux te faire aider par une association pour aller faire un système de sieste à Pierre d'Angle de 3-4 heures.
De sieste ?
De sieste, oui.
De sieste ? Ah, ok.
Voilà. Donc Pierre d'Angle est un endroit où David Giannoni a travaillé, qui est mon éditeur. Et ça ne m'étonne pas quand je vois le monsieur. C'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un qui est très, comment on dit encore, sollicité par le monde qui l'entoure. Donc, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime les humains, qui aime l'humanité. Je crois. Je veux le croire jusqu'au bout. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois de lui et c'est ce que j'ai envie de dire de lui.
l'immense jeu tome 2, quoi. Il y a aussi un texte que tu nous racontes, tu nous lis là.
L'immense jeu 2, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que c'est D'EUX. C'est un jeu de mots avec le fait que c'est le deuxième tome, mais aussi pour penser aux gens de la rue, parce que moi je suis en logement maintenant depuis 8 ans et demi, depuis que j'écris. Et c'est, ma poésie, c'est beaucoup pour témoigner, pour qu'on puisse essayer de les voir différemment, d'aller vers eux avec une approche différente. Donc moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais j'ai envie de donner de l'argent en SDF, mais à chaque fois que je sors mon portefeuille, hop, ils exagèrent, ils voient mes billets, je fais, c'est le problème. Prépare à la maison dans ta poche une pièce ou deux dans ta poche, tu te limites à ça, tu donnes juste une pièce, mais tu ne sors pas ton portefeuille, tu ne leur donnes pas plus envie qu'ils l'ont déjà toute la journée. » Donc, ok, d'accord, je vais faire comme ça. Mais j'adore quand les gens ils viennent me demander ce genre de service, surtout avec cette bienveillance. J'ai envie de continuer à donner, mais j'ai peur, comment je dois faire? Ben, tu prépares à l'avance, tout simplement. Quoi, c'est vrai? Alors, tu veux que... Alors, tu veux un texte plus
militant? Choisis. Quoi, comment?
Un peu plus militant?
Ouais.
Oui. Parce que là-dedans, je parle de mon père aussi. Un texte qui s'appelle...
Choisis.
Je parle de ma mère aussi. Je parle de mon fils dedans aussi. Donc, le monde ne change pas. Donc, j'ai pas l'habitude d'ouvrir mes bouquins. Moi, j'ai mon GSM et c'est là que je retrouve tous mes textes, au fait. Et en plus, des fois, quand je fais des micros ouverts, des petites scènes et tout, je modifie mes textes. Parce qu'il y a des moments où je l'ai écrit à telle époque et je dis bien l'époque où je l'écris. Donc, je remets à l'époque actuelle et je change certaines petites choses. Donc, je suis désolé, ça c'est mon fils qui essaye de m'appeler depuis tantôt. Mais il apprendra que. On ne peut pas avoir tout. Non, il apprendra qu'on ne peut pas tout avoir quand on veut.
Non.
Il faut qu'il apprenne certaines choses. Hein. Mais il est très. On m'a beaucoup menti à propos de son compte, beaucoup. Donc je suis agréablement surpris de voir que c'est quand même quelqu'un qui veut comprendre et qui veut essayer d'écouter et d'y arriver. Donc, je vais essayer de trouver un texte que... Oh, en fait, j'essaie de choisir un texte que je n'ai pas encore présenté au micro ou sur une scène ouverte. C'est un peu plus difficile, ça. Donc, la rue, c'est rude. Les temps sont crus. Elle te serre le cou, rage d'être l'esclave d'un système qui t'envoie droit dans le mur. Droit à un toit ou droit à une douche? Le flux des nécessiteux s'accentue. Le service militaire a été révolu. Résolution à la con, l'armée te salue. À l'armée du salut, ce n'est pas la même mission. Seul sur un îlot de désolation, pour seule consolation, deux rames qui me mènent en bateau, ivres de verre et de ponctuation. Dormir dans les stations, le passage des métros, c'en est trop. En manque de considération, qu'on se le dise, les naufragés ont été créés par ceux qui ont inventé la manipulation. La rue fait des ravages, c'est un vrai carnage. Carnaval des gens masqués au bal des faux culs démasqués, les pauvres disent « Hello », endroit où les riches deviennent subitement « clodo ». Politique désaxée de nos réalités, authenticité évidente d'existence oubliée, complètement axée sur le sparadisme, leurs idées complètement sadiques. Bientôt l'argent deviendra électronique, digitalisation numérique, ne soyons pas pudiques, digirectal, pour ceux qui l'auront toujours dans le fion. Elle est de mauvais augure, la rue. On a mauvaise allure à la rue. On pue à dormir dans la rue. La rue, elle ne te tue point. Elle te consume au fur et à mesure. C'est de plus en plus dur. On se sent réduit, diminué, inexistant, face à cette immense violence. Source d'emmerde. Société abjecte, politique de merde, tu en prends plein la vue. On te retire tout, ton boulot, ta femme, ta voiture et même le sourire sur ta figure. En Belgique, la politique trouve normal de voir, savoir que des enfants dorment avec leurs parents sur des cartons. Des parents qui n'ont plus d'argent, plus d'appartement, pas même l'espoir d'un arrangement, obligés d'être mendiants, de fatigue, être mort-vivant, vivre avec des faux-semblants, le sentiment d'abandon d'une société dépassée. Dans les bas-fonds, s'éloigner, dans l'abîme, s'estomper, dans les airs, se volatiliser. On se croirait au zoo, à être admiré comme des lions, recevoir les cacahuètes comme des gibbons, tourner en rond comme les poissons, être modélisé, manipulé, articulé comme Pinocchio. La rue, c'est rude. Les temps sont crus. Elle te serre le cou. Rage d'être l'esclave d'un système qui t'envoie droit dans le mur. C'est ça, la rue.
C'est écrit quand, ça? Il y a un petit temps?
Plus ou moins 3 ans, oui. C'est des textes que j'ai repris qui n'ont pas pu aller dans le premier. Mais celui-là, ça me tenait à cœur parce que je parle... je ne sais pas si tu as entendu les allusions que j'ai faites dans certaines institutions et des associations à Bruxelles. Juste Flux, l'armée du salut. Mais je parlais aussi du pauvre Hello, quand les pauvres disent Hello. Je ne sais pas si tu te souviens de ce scandale du pauvre Hello avec l'argent. Voilà.
Dis-le pour les gens qui ne savent pas, en deux mots.
En quelques mots, en fait, le pauvre Hello est à la base un restaurant social qui accueille les plus démunis pour manger. En tout cas, sur papier, c'est comme ça.
Derrière la place du jeu de balle, quoi.
Oui, c'est derrière la place du jeu de balle. Je ne connais plus le nom de la rue. Mais voilà, le plus important à savoir avec le pauvre Hello, c'est que tout cet argent est parti pour construire un ranch pour épater les riches, quoi. En fait, c'est de l'argent qui sort de la poche des pauvres pour aller dans la poche des riches. Voilà, et c'est ça le scandale, au fait.
Non, c'est de l'argent que les gens donnent, monsieur, madame, tout le monde, tu dis ?
Tu m'as dit en quelques mots, parce que...
Mais en quelques mots... On peut le dire autrement aussi, je veux dire, c'est de l'argent que monsieur, madame, si j'ai bien compris, hein, monsieur, madame donne à Poverello pour aider les pauvres, et c'est ceux qui sont censés aider les pauvres qui détournent l'argent pour faire autre chose.
Ouais, c'est en tout cas l'émission allait dans ce sens-là, oui. Donc c'est la RTBF qui avait fait cette émission.
Je l'ai vu, gros scandale.
Si, je l'ai vu, je ne savais pas de souci. Surtout que moi, j'ai connu les Poverello à l'époque encore où... Les jeunes pouvaient encore rentrer jusqu'à un moment où ils ont fait une restriction à partir de 55 ans.
Oui, mais ça, je suis choquée.
Au fait, non, moi pas, parce qu'à l'époque, j'ai compris pourquoi ils faisaient ça. En fait, ça partait toujours en bagarre à l'intérieur. Et c'était la plupart du temps les jeunes. Donc forcément, les personnes âgées depuis 55 ans sont plus calmes. Mais ils ont commencé vraiment à être très sélectes. Donc il y a des personnes âgées
qui étaient alcooliques. Il faut réguler, des fois, c'est des petites tensions. Voilà, il faut remettre le cadre, ou je ne sais pas tout quoi, mais il ne faut pas... Oui, mais eux, des fois, ils prennent le prétexte de ça pour dire, ouais, tu vois.
Je l'ai vu, il y a vraiment eu des bagarres. Je vais même le dire, je suis une des personnes qui m'est battue à l'intérieur du Poverello.
Mais ça, sûrement, c'est pas à cause d'une fois ou même de deux fois ou même de trois fois. Il y a moyen de remettre du cadre et de faire en sorte que vous ne punissez pas les autres et que les autres ne soient pas punis. Et même vous. Vous dire, on va pas vous éjecter, ça arrive, quoi. Ça arrive de surtout tout, dans la rue, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Tout dépend de la mentalité de la personne qui gère tout ça, hein. C'est ça aussi, hein. Donc,
méritocratie, là, tu devrais la mettre à la poubelle, hein.
La méritocratie, je ne la mettrai pas à la poubelle parce que je l'ai subie, j'ai vécu avec. Et je me dis que j'essaie de rester honnête avec les faits qui se sont passés. Avec le pauvre Hello, je sais que je me suis bagarré là-bas aussi et que j'étais une des personnes qui a mis à mal le projet. Maintenant, le pauvre Hello...
Excuse-moi, Jonathan, on ne se connaît pas, mais je veux dire, l'ambiance de la rue, des fois, elle est chaude. Des fois, comme tu dis, il y a les émotions, ça s'emballe. Je veux dire, ceux qui travaillent ou ceux qui défendent le projet de pauvre Hello le savent bien. Ce n'est pas pour ça qu'on doit fermer cet endroit ou te punir toi ou je veux dire voilà il faut travailler avec quoi tu vois il faut pas exclure encore plus quoi
je suis d'accord avec ce que tu me dis mais il faut pas oublier la réalité elle est différente
mais enfin non je te parle avec la réalité je te parle avec les conflits avec
leur réalité c'est eux qui gèrent le pauvre Hello c'est pas à nous de dire ce qu'ils doivent faire du pauvre Hello même si c'est scandaleux c'est eux qui gèrent le truc
mais non
même
ils gèrent le pauvre Hello avec l'argent qui n'est pas le leur quoi donc c'est de santé publique quoi tu vois
d'accord maintenant voilà c'est un combat qui m'appartient pas moi mon combat est ailleurs avec les personnes de la rue avec fait de témoigner et de dire les choses, mais c'est clair que c'est un scandale. Maintenant, qu'est-ce que j'y fasse, moi, de ce scandale, à part d'en parler un petit peu pour un peu éveiller l'esprit des gens. Maintenant, moi, je préfère pas trop traîner avec ce genre de scandale. Moi, je préfère alors parler de l'ASBL Diogène qui font un travail de titan avec les personnes de la rue. Je sais pas, tu connais l'ASBL Diogène? L'ASBL Diogène, c'est une ASBL de travailleurs sociaux qui travaillent essentiellement dans la rue. Ils n'ont pas de bureau, donc ils vont vers les personnes de la rue. Il y a un système de visit first. C'est très, très vaste le travail de Diogène. Mais essentiellement, leur boulot à eux, c'est de sortir les gens de la rue et de les maintenir en logement. Et ici à Bruxelles, Diogène est assez réputé pour avoir de très belles réussites. Alors tu auras toujours des détraqueurs d'une manière ou d'une autre. Tu auras toujours des gens qui diront « Oui, mais Diogène, telle personne, c'est de la merde, nani, nana. » Écoute, ça c'est ton expérience. Moi, ce que je parle, c'est du travail de fond de Diogène depuis maintenant 25 ans ou peut-être 30 ans dans ces eaux-là. Donc ça, c'est des combats qui me tiennent à cœur parce que ce sont des gens qui vont dans le vif du sujet. Ils vont dans le cœur du problème, et c'est dans le cœur du problème qu'ils vont chercher les solutions afin de donner l'espoir aux gens. Et moi, c'est ça que j'ai envie de donner, de l'espoir. J'en ai reçu, et j'aimerais bien le donner, de l'espoir. Toutes ces magouilles, je m'en tape. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours des magouilles. C'est comme ça. Et c'est quand je dis que je m'en fous, pas dans le sens où, oui, c'est clair, ça ne devrait plus arriver. Maintenant, il y a d'autres restaurants sociaux, il y a d'autres endroits d'accueil, et des endroits beaucoup plus accueillants, bienveillants. Il y a Douche Flux, qui est un endroit qui accueille correctement les gens. Il y a Lilo, il y a le centre Circé pour les femmes et les personnes transgères sur le parvis de Saint-Gilles, qui est le premier centre exclusif femmes et étrangères. Donc ça aussi, il faut en parler de ces combats-là, de voir...
Transgère, c'est ça que tu as dit?
Transgère, le transgenre.
Ouais, transgenre.
Voilà. Okay. Donc la prononciation, tout dépend okay. Qui parle, mais voilà, il faut aussi parler de ces ASBL qui...
Oui, qui font bah oui, bien sûr, il faut aussi parler de ça. Mais après, il y a 50 minutes là. Donc, il reste, allez, 3 minutes.
Je vais te montrer la couverture de mon troisième livre, et si tu veux, je peux te lire un des poèmes du troisième livre, qui est très court, et... Dans le sarcasme, je t'avais parlé au début. J'aimerais bien te le présenter. C'est mon troisième livre.
Jamais deux sans toi.
Ouais.
C'est OIT.
Là, je suis content, c'est qu'on a abandonné l'immense jeu. Et on vient sur Jamais deux sans toi. Donc, de nouveau, écrit de façon de penser aux personnes de la rue. Deux, donc D'EIX. Et sans toi, TOIT, qui fait allusion à Jamais deux sans toi, du fait que c'est mon troisième recueil aussi. Et je vais te présenter un texte qui s'appelle Le renard d'État. Il faut juste que je cherche un petit peu dans mes mails. Voilà. Parce que lui, il n'est pas encore sorti. Il est en train d'être en fabrication à l'imprimerie de Hamet, de l'édition Balstrom. Et je sens que celui-là, il va toucher plus de personnes. Oui. Alors, je vais... Là, je l'ai ici.
Il y a du renard d'État. Tu dis ?
Le renard d'État est le citoyen perché. Un renard, nouvellement nommé au ministère de l'optimisation des rues et ruelles de Bruxelles, s'en alla trouver un administré qui nichait sous un pont. « Cher camarade, dit le renard en ajustant son papillon, j'ai pour vous un miracle, la réforme Arizona. » Le pauvre sent chez soi, avec un orteil qui sort de la semelle, sa gamelle remplie de pièces rouges, demanda « Vais-je avoir un toit, un emploi ?»« Beaucoup mieux !» glapit le renard. « C'est l'alliance radicale d'invisibilisation des zéros par omission nationale austérisée. En clair, si vous ne possédez plus de logement, vous n'apparaissez plus dans nos statistiques. C'est que le chômage a disparu. » Le sang chez soi, abasourdi, répondit « Mais je vais toujours dormir sous les ponts. »« Erreur !» rétorqua le renard en rentrant dans sa cella de merde. Vous ne dormez pas sous les ponts. Vous vivez une expérimentation d'insertion horizontale en milieu urbain aéré. C'est très à la mode chez nous, au gouvernement. Moralité, quand le gouvernement vous promet l'horizon, c'est souvent pour vous mettre à la porte de votre maison. Désolé, c'est encore mon fils qui essaie de m'appeler.
Quatre, on recommence, hein, parce qu'il y a le téléphone qui sonnait, quoi.
Le renard d'État est le citoyen perché. Un renard, nouvellement nommé au ministère de l'optimisation des rues et ruelles de Bruxelles, s'en alla trouver un administré qui nichait sous un pont. « Cher camarade, dit le renard en ajustant son papillon, j'ai pour vous un miracle, la réforme Arizona. Le pauvre sent chez soi. Avec un orteil qui sort de la semelle, sa gamelle remplie de pièces rouges, demanda « Vais-je avoir un toit, un emploi ?»« Beaucoup mieux !» glapit le renard. « C'est l'alliance radicale d'invisibilisation des zéros par omission nationale austérisée. En clair, si vous ne possédez plus de logement, vous n'apparaissez plus dans nos statistiques, c'est que le chômage a disparu. » Le sang chez soi, abasourdi, répondit « Mais je vais toujours dormir sous les ponts. Erreur !» rétorqua le renard en s'empressant de rentrer dans sa cella de merde. « Vous ne dormez pas sous les ponts. Vous vivez une expérimentation d'insertion horizontale en milieu urbain aéré. C'est très à la mode chez nous au gouvernement. » Moralité, quand le gouvernement vous promet l'horizon, c'est souvent pour vous mettre à la porte de votre maison.
Ça, tu l'as écrit
Il y a peu de temps, en fait. Il y a peu de temps. C'est surtout lié au gouvernement Arizona, ça, on l'a compris. Je crois que j'ai repris le nœud de papillon, c'est pour faire dire ou pas, à l'air de rien, même s'il n'est plus beaucoup là sur la, en politique, il dit encore son avis quelquefois. Et forcément, Martine, moi j'aime bien l'appeler Martine. Il y a toujours des aventures avec celui-là. Martine avec la Palestine, Martine avec la Carapils, Martine... Vous voyez qui je parle ? Is no good, là. Ouais. J'aime pas l'appeler par son nom réel, lui. Ce mec, rien qu'à le voir, je ne le supporte plus.
C'est sûr, il y a lui comme clown à l'avant-scène et puis il y a tous ceux derrière.
Sûr, hein. Il n'y a pas que lui.
Il n'y a pas que lui, sinon ça ne tiendrait pas, tu vois.
C'est Raoul est debout, il peut faire ce qu'il veut. Je ne crois pas beaucoup en lui. Raoul est debout, moi je ne crois pas beaucoup en lui. C'est beaucoup de beaucoup parler. Mais agir, on aimerait bien le voir agir et j'aimerais bien voir comment il va agir. Est-ce qu'ils vont se bouffer entre eux ou si les requins ne se mangent pas entre eux. Voilà, donc il y a ça. De Wever, là, qui va encore dire en Hollande ou en Flandre, je n'aime pas la Belgique. Non, ce n'est pas que je n'aime pas la Belgique, c'est je suis profondément flamand et il est pour même une séparation de la Belgique. Voilà, à l'époque, aujourd'hui, ça ne veut pas chanter l'hymne national. Je sais pas, c'est bizarre la politique belge en ce moment.
Ouais, c'est bizarre.
Un ciel ouvert.
Tu dis ?
Un vrai cirque à ciel ouvert.
Bon, on coupe. On termine sur quoi ?
Ben sur merci de m'avoir rencontré, merci d'être venu me laisser le crachoir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, si vous aimez la poésie, allez-y.
Il y a moyen de les trouver où, ceux-là ?
Alors moi, mes livres, il y a moyen de les trouver chez Malmström Éditions.
Bah donc là, j'ai vu qu'il y avait...
Sur Internet, ils ont une librairie à la rue Jourdan, rue Chaussée de Wavre, à proximité de la place Jourdan. C'est ici à Etterbeek. Il y a la maison poème de Hamet.
Ici, on est à Saint-Gilles.
Et Saint-Gilles, à l'avenue Jean Volders, il y a les yeux gourmands et le chien andalou qui a mon livre. Voilà. Sinon, moi, J.O. Carrier, 43@gmail.com. Et par mail, vous me faites une petite commande et je me déplace si c'est à Bruxelles. Si c'est ailleurs, là, c'est un peu plus compliqué.
Merci à toi.
Merci à vous.
Jonathan.